Éruption du Samalas en 1257, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipédia.org. L'éruption du Samalas en 1257 est l'événement volcanique le plus important des temps historiques, et peut-être de l'Holocène. Le Samalas était situé sur l'île de Lombok, en Indonésie. Les sulfates de cette éruption gigantesque occasionnent un hiver volcanique, c'est-à-dire un bref épisode de refroidissement climatique qui a eu un lourd impact sur les sociétés humaines. Le volcan s'effondre au terme de l'éruption, formant la caldeira Segara-Anak, qui est devenue un lac. L'existence d'une éruption majeure, d'indice d'explosivité volcanique 7 à cette date, est d'abord attestée par des preuves indirectes, les sulfates et cendres décelés dans les carottes de glace et les indicateurs paléoclimatiques, comme les cernes de croissance des arbres montrant la période froide qui en résulte. L'identification du site impliqué est une préoccupation des vulcanologues pendant plus de 30 ans. Finalement, au début des années 2010, l'éruption est formellement localisée sur le site indonésien. L'étude sur le terrain peut alors décrire le déroulement détaillé de l'éruption. L'étude des textes apporte aussi des informations, car des témoignages écrits de l'éruption sont découverts dans des manuscrits javanais jusque-là peu étudiés. L'ampleur exacte des conséquences de l'éruption sur les sociétés humaines reste un sujet d'étude actif, où beaucoup d'hypothèses sont avancées. Son lien éventuel avec le basculement de l'optimum climatique médiéval vers le petit âge glaciaire reste à prouver. Partie 1, preuve indirecte. L'existence d'un événement volcanique majeur à cette date a d'abord été déterminée à partir de preuves indirectes. Section 1.1, traces dans les carottes de glace. Les calottes glaciaires constituent une source d'information unique sur le passé de la Terre. Chaque hiver, une couche de glace est ajoutée au sommet de la calotte, emprisonnant des bulles d'air. En analysant l'air piégé dans la glace, on peut ainsi reconstituer des séries temporelles très précises sur la composition de l'atmosphère au fil des siècles passés. Le Greenland Ice Sheet Project est un projet international, États-Unis, Danemark, Suisse, visant à prélever au Groenland des calottes de glace et d'exploiter ces informations. Le forage commence en 1971. Les mesures de conductivité électrique de la glace et des concentrations en sulfate sur un profil carotté s'étalant sur 2000 ans, publiées pour la première fois en 1980 concernant le forage du GISP, montrent des pics correspondant à des éruptions volcaniques dont certaines sont bien connues historiquement, comme celle du Vésuve en 79 ou celle du Tambora en 1815, dont le panache atteint la stratosphère. Cependant, d'autres pics ne correspondent à aucune éruption connue, et c'est initialement le cas du plus important de tous, qui date de la fin des années 1250. Pour autant, des mesures réalisées sur les seules carottes prélevées au Groenland ne permettent pas de déterminer si l'on a affaire à une éruption d'importance planétaire ou à un événement plus modeste, mais situé à proximité du lieu de prélèvement. Des mesures similaires obtenues sur d'autres forages en Arctique, mais aussi à partir de 1980 sur des carottes prises en Antarctique, montrent un pic à la même date. Ceci renforce l'idée d'une éruption ayant affecté toute la planète, même si l'hypothèse d'événements simultanés dans les deux régions polaires ne peut être exclue totalement. Au début des années 1990, la comparaison entre les cendres volcaniques, elles aussi piégées dans la glace, recueillies dans les deux régions polaires, montre une très grande similarité d'aspect et de géochimie, rendant une origine commune presque certaine. Par ailleurs, les retombées sont à peu près de la même amplitude dans les deux zones polaires, ce qui pointe vers un volcan situé dans la zone intertropicale. Section 1.2. Paléoclimatologie. La dendrochronologie est une discipline qui étudie les cernes des arbres qui traduisent leur croissance annuelle entre deux arrêts hivernaux. Les années favorables à la croissance de l'arbre se traduisent par des cernes plus larges et inversement. En outre, si des épisodes de gel surviennent pendant la période de croissance, l'anneau correspondant à cette année en porte les traces. En observant, grâce à des prélèvements avec des outils dédiés comme la tarière de Preisler, les cernes de croissance sur un grand nombre d'arbres d'une même espèce, sur pied, retrouvés dans les charpentes, préservés dans la tourbe, etc., et en assemblant les courbes qu'ils fournissent, un indicateur paléoclimatologique très précieux est obtenu. Des méthodes de datation radiométrique sont utilisées en complément pour obtenir une datation absolue. Les données obtenues par cette méthode ont montré l'existence d'une période inhabituellement froide dans de nombreuses régions du monde autour de 1260. Vers 1990, le lien a été fait avec les informations dans les carottes glaciaires et cette détérioration du climat a été attribuée à un hiver volcanique. Partie 2. Identification du volcan. Section 2.1. Site écarté. Les volcanologues ont cherché pendant une trentaine d'années les volcans candidats à l'éruption attestés par des preuves indirectes. en 2000. La date et l'ampleur de l'éruption sont bien identifiées, mais sa localisation reste un mystère et le volcan responsable est activement recherché. El Chichon, au sud du Mexique, attira beaucoup l'attention. En effet, sa géochimie semblait pouvoir correspondre aux cendres retrouvées dans les glaces. Il a connu une éruption très émettrice de soufre en 1982 et les traces d'une éruption vers 1250 ont été retrouvées. Cependant, l'étude sur le site montra que celle-ci était d'une amplitude trop petite pour expliquer le pic de sulfate observé, avec un indice d'explosivité volcanique estimé à 4. De même, des preuves d'une éruption du volcan saoudien Harat Rabah, proche de Médine, en 1256 ont été retrouvées, mais d'une ampleur beaucoup trop faible. D'autres sites furent aussi étudiés, comme le Kilauea en Équateur et le lac Ocataina, une caldeira volcanique en Nouvelle-Zélande. Un volcan insulaire ou sous-marin en Mélanésie ou en Polynésie était aussi une piste sérieuse. Une telle localisation donnerait une éruption majeure, les meilleures chances de ne laisser aucun témoignage écrit. Section 2.2, découverte en Indonésie. Au début des années 2010, des équipes françaises, équipe de Franck Lavigne, Paris 1, et indonésiennes ont passé en revue des dizaines de volcans peu étudiés de l'archipel indonésien à la recherche de traces d'une éruption correspondante. Leurs travaux permettent d'identifier de façon quasi certaine l'éruption avec une caldeira présente sur l'île de Lombok, voisine de Bali, la caldeira Segara-Anak. Le site est d'une taille compatible avec l'ampleur de l'éruption recherchée et l'observation des dépôts convainc rapidement les volcanologues que le site est le produit d'une éruption relativement récente, alors qu'il était consigné dans les bases de données volcanologiques comme remontant à plusieurs milliers d'années. Des volcanologues japonais et indonésiens avaient déjà proposé en 2003 et 2004 de situer la formation de la caldeira au XIIIe siècle, mais en sous-estimant l'ampleur de l'éruption et sans la relier à l'événement mégacolossal recherché. La datation par le carbone 14 de 21 échantillons d'arbres ensevelis dans les dépôts pyroclastiques est parfaitement cohérente avec une éruption en 1257. Les derniers doutes ont été levés avec l'identification géochimique des cendres à celles retrouvées dans les carottes de glace et la modélisation du volcan qui a permis d'évaluer le volume d'éjecta dans la fourchette de 33 à 40 km3, cohérente avec les estimations basées sur les mesures des carottes de glace. L'étude d'un ancien manuscrit en vieux javanais, le Badad Lombok, Badad est un mot javanais signifiant chronique, écrit sur des feuilles de palmier et conservé au Musée national d'Indonésie à Jakarta, a permis de retrouver un témoignage historique de l'événement et de mettre un nom local sur le volcan, le Samalas. Cependant, à la fin des années 2010, de nouveaux travaux sur l'analyse géochimique des cendres prouvent que le Samalas n'est pas responsable de la totalité du signal, c'est-à-dire les sulfates et cendres volcaniques, détectés dans les carottes de glace en Antarctique. Une éruption en Terre Victoria, en Antarctique, en 1257, et une autre éruption non identifiée y ont aussi contribué. Partie 3. Description de l'éruption. Section 3.1. Le site avant l'éruption. Dans un contexte tectonique de zone de subduction, la plaque australienne s'enfonce sous la plaque de la sonde à un rythme de l'ordre de 7 cm par an, créant l'arc volcanique des îles de la Sonde. On trouve 276 volcans le long de cet arc, dont le Krakatoa, le Merapi et le Tambora, de la pointe ouest de Sumatra jusqu'à des volcans sous-marins en mer de Banda. Le Samalas culminait à environ 4200 mètres d'altitude, estimation basée sur le prolongement des pentes de la partie subsistante du volcan, et avait 8 à 9 km de diamètre. Ce cône s'est formé bien avant 12 000 avant Jésus-Christ. Le nouveau Rinjani, bien plus récent, qui existe encore, flanquait le vieux volcan à l'est. L'éruption, qui a fait disparaître l'ancien sommet, est de type plinienne, c'est-à-dire que l'évacuation de la lave et des gaz était quasiment impossible, provoquant une éruption de la pression à l'intérieur du volcan jusqu'à l'explosion. L'observation des dépôts en plusieurs points de l'île et des îles voisines a permis d'en comprendre le déroulement que la vulcanologue Céline Vidal découpe en quatre phases. Section 3.2, date de l'éruption. La date exacte de l'éruption n'est pas déterminée. La distribution des dépôts montre que le vent venait de l'est, ce qui est cohérent avec la saison sèche indonésienne qui s'étend d'avril à novembre. L'année peut être mise en doute. Certains auteurs ont proposé de la placer en 1258 ou au contraire de l'avancer en 1256, ce qui est cohérent avec les observations relevées sur des sources au Moyen-Orient. Section 3.3, première phase. La première phase est une éruption phréatique qui a déposé une fine couche de cendres sur une partie de l'île. Environ 400 km2 de terrain ont été recouverts en moyenne par 3 cm de cendres. Ensuite, une importante quantité de pierres ponces de faible masse volumique, autour de 400 kg par mètre cube, est expulsée et recouvre une grande partie de Lombok. Ce dépôt a une épaisseur de plus de 150 cm à proximité immédiate du volcan et représente encore 8 cm dans un prélèvement à Bali à 126 km sous le vent. Un ordre de grandeur de la masse éjectée dans cette phase, basé sur les épaisseurs de dépôt au point de prélèvement, une interpolation entre ces points, est de 8 milliards de tonnes. Section 3.4, deuxième phase. La nature des dépôts de la deuxième phase indique qu'elle est phréato-magmatique, c'est-à-dire que le magma a rencontré une importante quantité d'eau. Soit des nappes phréatiques étaient perchées dans les flancs du volcan, soit il possédait déjà un cratère sommital issu d'une éruption antérieure et contenant un lac. La quantité d'eau consommée par cette phase est évaluée à 0,1 à 0,3 km³. Cette phase se caractérise par un dépôt de pierres ponces différentes de celle de la première phase, plus riche en fragments lithiques et de granulosité plus faible. La quantité d'éjecta dans cette phase est nettement moins importante que dans la première, mais difficile à estimer avec précision. Section 3.5, troisième phase. La troisième phase, qui commence après l'épuisement de la réserve d'eau, se caractérise par une nouvelle couche de ponces d'une structure plus vésiculaire et plus riche en fragments lithiques, avec aussi la présence de lapilli. Les dépôts de pierres ponces de la troisième phase portent plus loin que les précédentes, couvrant presque toute l'île et atteignant Sombaya voisine. Section 3.6, quatrième phase. Enfin, la quatrième phase est celle des nuées ardentes qui ont descendu les flancs de la montagne sur une distance de 25 km jusqu'à la côte dans trois directions, guidées par la topographie du site. Arrivées sur la côte, les nuées ardentes ont pénétré dans l'eau et endommagé les récifs coralliens. Les dépôts pyroclastiques des nuées ardentes sont plus localisés que les projections de pierres ponces des phases précédentes, mais leur épaisseur peut, par endroits, atteindre 50 mètres. Pour cette phase, le volume de dépôt est de l'ordre de 20 km³ pour une masse proche de 20 milliards de tonnes. Ces matériaux sont beaucoup plus denses que les pierres ponces. Les cendres associées, elles, ont été retrouvées sur un prélèvement à 550 km sous le vent. Lors de cette phase, le réservoir magmatique étant dépressurisé, l'édifice entier n'étant plus soutenu par le magma s'effondre sur lui-même, formant une énorme caldeira, ou dépression circulaire d'effondrement, de 6 km par 8. Une partie du flanc du Rinjani, accolé au Sabalas, s'effondre également dans la caldeira. Section 3.7, ampleur de l'éruption. L'éruption aurait produit un panache volcanique atteignant 43 km d'altitude. Avec un indice d'explosivité volcanique de 7, elle est qualifiée de méga-colossale et pourrait être la plus importante de l'Holocène, c'est-à-dire depuis la fin de la dernière glaciation il y a 10 000 ans. Seules 4 autres éruptions de VUI-7 sont connues sur les 5 000 dernières années. Celle du Cerro Blanco en Argentine vers 2300 avant notre ère, celle du Santorin en 1600 avant notre ère, celle du mont Paiktu probablement en 946 et enfin celle du Tambora en 1815. Le Tambora se situant à moins de 200 km à l'est du Sabalas, sur l'île voisine de Sumbaya. La quantité totale d'éjecta est proche de 40 km³. Ce volume s'entend en équivalent roche dense, c'est-à-dire qu'il décompte la porosité des roches. Section 3.8. Caldeira. La caldeira résultant de l'éruption est devenue un lac. Son niveau actuel est à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il s'étend sur 11 km² et sa profondeur maximale est de 230 mètres. La température de l'eau est d'environ 23 degrés, température élevée pour un lac aussi en altitude, liée à la présence de sources volcaniques toujours actives. Cette température permet une production importante de phytoplancton. Le lac possède un riche écosystème. Il est suffisamment profond pour être bleu comme la mer, ce qui lui vaut d'ailleurs son nom. Sagara Anak signifie littéralement enfant de la mer au sens de petite mer en javanais. Trois petits cônes volcaniques plus récents se sont formés dans la caldeira. L'un d'eux, le Barujari, nouvelle montagne en javanais, est toujours très actif, ayant connu 6 éruptions depuis 1944. Partie 4, conséquences de l'éruption. Section 4.1, conséquences locales. Un ou plusieurs tsunamis ont eu lieu dans le détroit d'Alas, qui sépare Lombok de Sumbaya, quand les nuées ardentes du Samalas sont entrées en contact avec l'océan. Des traces, projections de sédiments marins, dont des coraux, en ont été retrouvées sur le littoral de Sumbaya et sur une petite île dans le détroit. Des témoignages locaux ont été retrouvés dans des documents qui avaient été précédemment peu étudiés. Le Baba de Lombok est un texte du XVIe siècle compilant des récits issus de la tradition orale et d'écrits antérieurs. Il donne une description de l'éruption, nomme le volcan, et indique qu'une ville du nom de Pamatan, qui était la capitale du royaume de Lombok, qui ne semble pas avoir survécu à l'explosion, et sur lequel il n'existe quasiment aucune autre source, a été ensevelie lors de l'éruption par ce qui évoque des nuées ardentes. Des fouilles sur le site pourraient donner lieu à une découverte archéologique majeure qui a été comparée à une Pompéi asiatique. Selon le manuscrit, Pamatane avait plus de 10 000 habitants, ce qui en fait une ville importante dans le contexte historique. Des études portant sur un deuxième document indonésien, le Babatsun Wong, ont été publiées en 2019. Ces deux manuscrits décrivent l'éruption et en particulier les nuées ardentes. Il s'agit du plus ancien témoignage direct d'une telle éruption en dehors des lettres de Pline le Jeune. L'éruption a sans doute dévasté et rendu partiellement inhabitable pour des décennies l'île de Lombok ainsi que Bali et l'ouest de Sumbawa. Le roi javanais Kartanagara annexe en 1284 l'île de Bali à son propre royaume sans rencontrer de forte résistance. Cela pourrait s'expliquer par le fait que l'île ait été durablement dépeuplée et désorganisée par l'éruption. Les éjectats du Samalas sont présents dans toute l'Indonésie centrale, au point d'être désormais utilisés comme marqueurs, contribuant à la datation des sites archéologiques de cette région. Section 4.2, hiver volcanique. L'éruption du Samalas a provoqué, selon une étude récente reposant sur les traces géochimiques, le plus important relâchement de gaz, notamment de dioxyde de soufre et de gaz chloré, dans la stratosphère de l'air commune, devant l'éruption du Tambora en 1815, bien mieux documentée. Le dégagement est estimé à 158 millions de tonnes de dioxyde de soufre, 227 millions de tonnes de chlore et 1,3 million de tonnes de brome. Un tel relâchement de gaz provoque un phénomène connu sous le nom d'assombrissement global, avec un important effet sur le climat. L'assombrissement du ciel a été consigné par les contemporains. De nombreuses sources écrites en Europe, en Arabie, en Inde, en Chine, au Japon font référence à un tel phénomène, même s'il n'est pas certain de pouvoir connecter la totalité de ces témoignages au Samalas. La baisse à court terme des températures de surface résultant de l'éruption serait d'environ 1 degré Celsius. Cette valeur est cohérente avec la prise en compte dans un modèle climatique de la quantité de soufre émise et avec les indicateurs paléoclimatiques que sont notamment les cernes du bois. L'éruption d'hallocarbures de l'éruption ne semble pas, contrairement à ce qui avait été suggéré, avoir significativement endommagé la couche d'ozone. Ainsi, les années suivant immédiatement l'éruption ont été plus froides que la normale dans plusieurs régions du monde. Cette période froide, attestée aussi bien par les traces paléoclimatiques telles que la dendrochronologie que par des témoignages historiques directs, a provoqué de mauvaises récoltes. Du fait des années froides provoquées par l'hiver volcanique, la projection de glaciers était observée dans le Grand Nord canadien et en Norvège. Section 4.3, impact sur les sociétés. L'Angleterre subit une grave famine en 1258 et certains chercheurs font désormais le lien avec l'éruption. Cet épisode est relaté dans les Chronica Majora de Matthieu Paris. Un ensemble de fosses communes contenant 10 à 15 000 squelettes a été découvert à Spitalfield, dans l'est de Londres, à la fin des années 1990. D'abord attribué à la Grande Peste, il s'avère avoir été creusé pour les victimes de la famine de 1258-1259, un siècle plus tôt. La population de Londres à l'époque est de l'ordre de 50 000 habitants, ce qui donne une idée de l'ampleur des pertes humaines. Des prix anormalement élevés de la nourriture sont aussi signalés dans plusieurs pays d'Europe, provoquant des troubles sociaux et, peut-être, l'éruption du mouvement des flagellants en Italie, ainsi que la révolte Mudéjar dans la péninsule ibérique. Au Japon, le Azuma Kagami rapporte un été froid et pluvieux et de mauvaises récoltes, provoquant une famine et des révoltes. En Amérique du Sud, l'Altiplano connaît une période froide et sèche à la fin du XIIIe siècle. Cette dégradation du climat, longtemps attribuée à un événement volcanique local, une éruption du Kilauea vers 1280, est elle aussi en grande partie liée au Samalas. Des traces archéologiques, comme les silos à grains, montrent que l'agriculture pluviale s'est parallèlement développée pendant cette période, suggérant une adaptation réussie de la population locale. Du point de vue géopolitique, l'hiver volcanique pourrait avoir accéléré le déclin de l'empire chinois des Song au profit de l'empire mongol, dont la société et le mode de vie sont plus adaptés aux nouvelles conditions climatiques. De même, en Anatolie, il pourrait avoir affaibli la société byzantine, essentiellement sédentaire et agricole, au profit des Turcs semi-nomades. Un article de recherche publié en janvier 2017 relativise l'effet de l'éruption sur le climat en notant que l'Amérique du Nord ne semble pas avoir été touchée par ce refroidissement. Ces chercheurs suggèrent que la situation alimentaire en Angleterre comme au Japon était déjà difficile avant l'éruption, qui n'aurait qu'aggravé une crise existante. Un article de 2009 estimait que malgré une éruption de soufre 10 fois plus importante, le refroidissement provoqué par l'éruption de 1257 était à peine plus marqué que celle du Pinatubo en 1991. Il expliquait cette incohérence apparente par la taille des particules émises, plus grosses dans le cas du Samalas. Section 4.4. Lien avec le petit âge glaciaire. Une question qui n'est pas tranchée est de savoir si cet effet sur le climat a été seulement transitoire ou si l'éruption a été une cause du basculement de l'optimum climatique médiéval vers le petit âge glaciaire. L'effet direct des aérosols sur le climat est bref, car ils disparaissent rapidement de l'atmosphère. La demi-vie des aérosols stratosphériques de sulfate est estimée à 281 jours dans une étude portant sur l'éruption de El Chichon en 1982. L'hiver volcanique peut cependant avoir déclenché des rétroactions, modification des courants marins, progression des surfaces recouvertes de glace, avec une influence à long terme sur le climat. Des travaux récents de modélisation de la transition vers le petit âge glaciaire incorporent le forçage climatique, incluant l'éruption du Samalas, mais aussi celle du Kauai en 1452 notamment, parmi les causes prises en compte. L'expérience consistant à retirer un à un les forçages du modèle, volcans, modification de l'orbite terrestre, variation des gaz à effet de serre et variation du rayonnement solaire, montre une influence importante du volcanisme.